Pigeot Immobilier, La Française Immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Madame, monsieur, bonjour. On est ravis de vous retrouver sur le plateau de Pleine Lucarne après un succès du Stade Rennais face au Clermont Foot. Merci d'être avec nous. Merci d'être fidèle à cette émission, la seule dans le monde, seule émission de foot dans le monde qui ne va pas une seule fois pendant les 45 minutes que nous allons passer ensemble employer le nom d'un certain attaquant qui partirait d'un certain grand club, d'une certaine capitale. Nous, ici, on s'en fiche et on vous parlera que du Stade Rennais et de Milan, évidemment, qui va arriver jeudi, mais aussi de Clermont, qui s'est achevé hier. On est avec Christophe Penven de TVR. Salut Christophe. On est aussi avec Thomas Rassouli de Stade Rennais Online dans ses vêtements ethniques.
Oui, j'ai ramené ça de Billund, ça vous parle?
Ah, Billund, petite commune. Vous savez ce que c'est, Billund? Billund, c'est la ville de Lego.
Oui.
Au Danemark, on a failli partir dans cet avion-là en rentrant de Milan.
C'était pas loin.
On s'est un petit peu trompé. On est avec Guillaume Lenné de West France, dit Guigui pour les intimes. Salut Guillaume, ça va?
Les supporters
rennais. C'est comme ça, on l'appelle comme ça maintenant. Les supporters rennais vous appellent comme ça. Et puis son chef est là, à ses côtés, il surveille de près ce qui se passe, Laurent Frétinier. Salut Laurent.
Bonjour, j'ti Biloun.
On va regarder le résumé très vite, on a plein de choses, hein, entre le déplacement à Milan qui nous a tous un petit peu marqué, la venue de Milan qui va nous marquer sans doute aussi, et puis le championnat où Rennes poursuit sa série. Beaucoup de choses à vous dire, voici le résumé de Rennes-Clermont. Pratiquement 27 000 spectateurs pour accueillir la Lanterne Rouge. Début de mi-temps un peu compliqué, mais il y a quand même ce centre de Blas, la reprise de Terrier qui est très actif. Et là, cette belle balle d'Omari pour Gouiri qui ne cadre pas. On ne va pas cadrer très souvent finalement en première période. Alors il y a cette action là, on se demande comment là c'est possible de ne pas cadrer. Mais c'est Ibrahim Salah qui, après un double 1-2, rate le cadre. Regardez, c'est magnifiquement remis. Ah, il s'en veut, Salah, mais il ne va pas s'en vouloir longtemps, car sur ce ballon délicieux, donné à la suite d'un corner, jaillissement de Omari qui marque son premier but en Ligue 1. C'est magnifique, il n'y a pas du tout de hors-jeu. Et ça fait 1-0, on joue depuis 31 minutes et on se dit que ça va bien se passer parce que quelques minutes plus tard, sur un ballon chippé à 40 mètres à peine du but, pénalty sifflé par M. Lissorg, qu'on découvre, hein. M. Lissorg, il fait un bon match. Alors voilà, on y reviendra sur ce pénalty, il est raté par Ludovic Blas et à la mi-temps ça fait 1-0. Début de deuxième mi-temps un peu difficile pour les Rennais. Il faut une sortie de Bélocian là et puis un tir non cadré de bout au bas pour faire passer quand même quelques frayeurs dans le camp Rennais. Mais là après les Rennais vont se mettre bien avec ce déboulé et cette reprise, déboulé de théâtre, reprise de Terrier, idéalement placé. Ah, il a mis des buts plus difficiles dans sa vie, hein, Terrier, mais il faut être là. Et donc ça fait 2-1. Malheureusement, pas de clean sheet, car voilà, encore un oubli, un relâchement dans la surface de réparation rennaise. Et le grand Matsima prend le meilleur sur Bélocian. Ça fait 2-1 et on s'est dit attention pourvu qu'ils ne reviennent pas à 2-2. Mais là, Gastien rate une belle balle alors qu'il y avait sans doute mieux à faire. Entre Désiré Doué, centre en retrait parfait. Pied droit, plat du pied, sans bouger, de Terrier qui va évidemment, lui, parce qu'il a la grande classe, remercier son passeur. C'est son doublé, 3-1, il ne se passera plus grand-chose. Il aurait pu se passer autre chose. Là, il part au but, il va être retenu par Coffrier. Alors Coffrier expulsé à l'aller, expulsé au retour. Je ne sais pas si c'est arrivé souvent dans les annales. Le coup franc derrière de Bourigeaud détourné par le gardien Morigio. Finalement, voilà, plus grand chose à signaler. Rennes s'impose sans trop coup férir, hein, 3-1. Alors on regarde le classement, on va y revenir souvent. D'ailleurs, sur ce classement, Rennes est sur une série de 6 victoires consécutives. Il faut remonter à 2006 ou 2008 pour voir une série de ce type 2006. Donc vous voyez, ça fait 18 ans hein, que c'est pas arrivé. 34 points, je vous pose la question. Les plus anciens qui nous regardent à la télé ne vont pas rigoler, les plus jeunes vont se moquer de moi, mais est-ce que le maintien est assuré ?
On est à 18, c'est évident que là, maintenant, on ne regarde plus dans le rétro depuis un petit moment. Oui, mon cher Vincent, c'est évidemment, vous, votre non, grande mais... inquiétude. Alors, le maintien à 18, c'est plus 40 points. Donc là, il reste 12 journées. C'est clair que le maintien est assuré.
OK, maintien assuré.
En deux mois, il y avait inquiétude. À la mi-temps de Clermont, donc le match aller de ce match-là, il y avait inquiétude. En deux mois, redresser la barre et assurer son maintien, ça veut tout dire des performances du Stade Rennais
sur ces deux derniers mois. Et du niveau global de la Ligue 1 aussi.
Peut-être.
Non, mais voilà. Clairement. Bon, pas le maintien, vous y pensez même pas, vous, Thomas Rassouli.
Non, j'ai pas envie de me moquer de vous.
D'accord. Oh, très bien. Non, parce qu'à la mi-temps, effectivement, on avait dit pendant quelques semaines, Rennes va jouer le maintien. OK. On revoit le classement. Si on revoit le classement, on va voir que bah, pour les gens qui se battent pour le bas, Nantes, Lorient, Montpellier, Toulouse, Le Havre, ils n'ont finalement que 12 points de moins Rennes. Hein. C'est pas non plus.
Ça fait beaucoup de matchs quand même.
Regardez, Metz et Clermont sont dans une dynamique. Il y a quand même les dynamiques qui comptent en football. Il y a la dynamique très positive de Rennes en Ligue 1, les dynamiques très négatives de Clermont et Metz qui sans doute feront la charrette. Et après, ils vont se battre pour Nantes, Lorient, Montpellier, Toulouse et peut-être Le Havre pour la place de barragiste.
Ouais, d'accord. OK, bon, bah, tant mieux. On est rassuré. En tout cas, moi, je le suis. Rennes sera donc en Ligue 1 la saison.
Ça fait une bonne chose.
la saison prochaine. On regarde encore le classement, moi je m'en lasse pas. Est-ce que les places européennes maintenant, est-ce que Rennes peut aller viser beaucoup plus haut ?
La deuxième place, oui. Jusqu'à la deuxième place.
Ouais. Jusqu'à la deuxième place.
Il y a 6 points d'écart et il reste 12 journées, merci. Pardon.
Ouais.
Le Stade Rennais demain a rattrapé, il me semble, 16 points sur Nice. Regardez, ils sont revenus à 5 points de Nice.
Ouais. Alors,
ça va très vite, va commencer à se recorser un petit peu quand même. Il y a un déplacement au Parc des Princes, donc pour la prochaine journée, ça va quand même, a priori, pas être simple. Ensuite, vous recevez Lorient qui revient très bien. Vous avez un déplacement derrière à Lille qui est imprenable depuis le début de saison chez lui. Voilà, vous avez déjà quand même 3 matchs. Alors Lorient, on se dit a priori 3 points. Paris, Lille, déjà, voilà. Et à côté de ça, d'autres équipes vont forcément prendre des points en haut. Donc peut-être que là, il va y avoir à nouveau des cartes rebattues. Hein.
La 7e place, c'est une place européenne si une des équipes du haut de tableau gagne
Paris,
la Coupe.
Il ne reste plus que Paris ou Nice, mon cher Vincent.
Paris ou Nice, pourquoi ?
Ou Rennes. Bah oui. Pour gagner la Coupe.
Oui, c'est vrai.
Mais si Rennes gagne la Coupe, ils ont automatiquement européen. Donc, il ne reste plus que Paris ou Nice qui se joue.
D'accord.
Donc, la 7e place, c'est quand même pas... c'est pas fait, quoi.
Non, c'est pas fait. Non. Je suis d'accord.
Paris, il faut, avec le joueur dont...
Il faut être attentif, ouais.
Sévère et direct et pour la Coupe de France. Évidemment, ils ont quasiment plus que ça à jouer.
Oui. Bon, OK.
Et le joueur dont vous ne voulez pas parler va quand même vouloir gagner cette Coupe de France, quand même.
Bon, c'est pas.
Bah, je pense quand même, il aime ses stats.
Ok, oui, c'est vrai qu'il aime ses stats. Rennes, c'est le tube de l'hiver, signe ce matin nos amis de l'équipe, parce que depuis le 20 décembre, si on regarde bien ce qui s'est passé, Rennes, c'est l'équipe qui marque le plus de points, c'est l'équipe qui marque le plus de buts, c'est l'équipe que l'Europe entière nous envie.
Laurent l'a bien dit tout de suite, c'est une question de dynamique, et la dynamique, elle est... pas quasi parfaite pour le Stade Rennais, parce qu'en plus de tous ces points pris en championnat, il y a aussi les qualifications en Coupe de France qui se sont enchaînées. 3 tours ont été passés, il y a la Coupe d'Europe voilà, où c'est un petit peu difficile, mais ça va peut-être laisser finalement...
Alors peut-être,
on verra jeudi, on verra les pronos à la fin, mais effectivement, ça va peut-être, dans le pire des cas, ça laissera un petit peu de marge dans le calendrier.
Oui, et en tout cas, hier, on ne l'a pas assez noté, mais les spécialistes des stats l'ont noté, c'était la 600e victoire de Rennes à domicile de son histoire. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont... Alors évidemment, Marseille, ils sont à 800.
Il y en a 9.
Marseille avec son nouvel entraîneur. Voilà, il y a Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, Monaco, Lyon, Lille, Nice, Sochaux et donc Rennes, qui est le club qui franchit la barre des 600 victoires à domicile. Il fallait le signaler. Et justement, on va revenir sur cette victoire face à Clermont avec 5 changements. Ça vous a surpris qu'il y ait autant de changements dans le groupe de Julien Stéphan?
Bah, vu qu'on n'avait annoncé pas cette équipe-là, on ne va pas dire qu'on le savait, puisque, puisque effectivement, on avait
Cédou. C'est honnêteté.
On avait vu Cédou, effectivement, et puis Goury. Après, oui, c'est vrai que Julien Stéphan a géré un petit peu là son groupe, en tout cas en relançant notamment sur les côtés Salah et puis Blas. Après coup, forcément, puisque le résultat est là, c'était un bon choix, puisque vous avez relancé deux joueurs. Alors, on va reparler de Blas, hein, c'est un autre débat.
Comment on parle
Après, voilà, c'est vrai qu'à Milan, on imagine que contre Milan, Bourigeaud va revenir à droite, que Désiré Doué va revenir à gauche. Donc, comment vous allez faire au Parc? Franchement, c'est pas ultra simple, je trouve, la gestion quand même des trois matchs là, pour Stéphane. Paris, Milan.
Je pense que ce que ça dit aussi de cette rencontre-là, c'est que le match de jeudi contre Milan sera peut-être pas acheté tout de suite. C'est-à-dire qu'on a...
Acheté, je prononce mal.
Non, mais le discours qui était celui de Stéphane samedi était de ne pas tout remettre en question, de poursuivre un petit peu. Donc on s'attendait tous à peu près à un 11 un petit peu similaire à celui qui avait évolué contre Milan. Le 11 titulaire pour celui qui est titulaire actuellement pour prendre les 3 points. Il y a eu finalement 5 rotations, ce qui veut dire...
La moitié des jours de champ.
Ça s'explique aussi par le retour et les moins de 48 heures de repos des joueurs entre Milan et le match contre Clermont, mais ça veut aussi dire que ce ne sera pas forcément une équipe bis jeudi, ce qu'on aurait pu penser après avoir pris un 3-0 à San Siro, et vu les discours qui sont suite Stéphane et des joueurs voilà, qui n'ont pas beaucoup d'espoir à accepter Désiré Doué, ça peut vouloir dire ça.
Christophe ?
Ce qui est assez surprenant, c'est les deux milieux de terrain, Santa Maria et Matuziwa, enchaînent. Et je pense que c'est un poste où on prend du jus, on se dépense beaucoup. Donc on s'est dit comment il va gérer les prochains matchs. Il n'y a pas beaucoup de choix. Non. Et donc voilà, c'est plus ça sur les prochaines rencontres. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce milieu de terrain devant la défense qui est
suspendu de Paris déjà.
Matuziwa jouera donc contre Milan, mais pas contre Paris. Mais voilà, après, moi je trouve ça plutôt logique. À l'arrivée, évidemment, comme on dit, ils ont gagné, c'est logique. Mais je pense que tout ça, c'est calculé, travaillé sur la semaine et sur les semaines à venir.
On n'avait pas forcément envisagé non plus Théâtre à la place de Truffert. Hein.
Bah c'est Julien Stéphane a expliqué que visiblement Adrien Truffert était fatigué, donc il a fait ce choix-là.
Et dans son esprit, Théâtre est le remplaçant naturel de Truffert. Avant Bélocian.
Voilà.
Et on a posé la question à Julien Stéphane en conf, parce qu'évidemment, on s'était laissé dire, notamment pendant le mercato, qu'un des débats autour de Théâtre, c'était l'euro. Parce qu'en équipe de Belgique, il faut quand même savoir que Théâtre peut espérer jouer l'euro en position de latéral gauche. Il est barré dans l'axe. Donc, on croit savoir que du côté du clan du joueur, il voyait d'un très bon œil le fait de faire des matchs en tant que latéral gauche.
Bah oui.
Il y a eu l'histoire Truffert, vous vous souvenez, à Marseille. Bon, voilà. Donc voilà, effectivement. Et puis l'option Théâtre latéral gauche, elle est intéressante parce que c'est un vrai défenseur. Déjà, c'est intéressant. Et on se rend compte qu'offensivement, il peut apporter aussi.
Ouais. Et c'est un vrai changement parce que sous Bruno Genesio, c'était plutôt Janel Bélocian qui était la doublure côté gauche avant que Naguida arrive avec les pros. Bélocian qui d'ailleurs donc maintenant est dans la rotation en charnière centrale et qui devient la quatrième option au milieu de terrain au vu des blessés actuels. C'est-à-dire qu'on a Matuziwa, Santa Maria, Bourigeaud qui fait un petit peu office d'option un petit peu plus meneur de jeu mais replacé un petit peu plus bas. Et en remplaçant sinon en quatrième, c'est Bélocian, le défenseur central dont nous parlait Stéphane sans le nommer. C'est Bélocian qui serait amené à jouer au milieu de terrain s'il y avait des pépins.
Il va aussi falloir gérer le Bourigeaud, c'est hier pour ça qu'il était sur le banc, parce qu'il va jouer Milan et il va jouer Paris au milieu. Parce que j'imagine mal quand même mettre Bélocian au milieu contre Paris, parce que là, autrement, ça peut faire. Même si le milieu parisien n'est pas exceptionnel,
Bourigeaud dans le sens où Bourigeaud a été ménagé, notamment fait partie des joueurs qui ont été ménagés ce week-end.
Mais il va faire deux de suite.
Et puis ça peut être l'occasion de mettre Blas à droite, au Parc.
On va en parler.
C'était peut-être le cas avant.
Juste comme ça, sur le match d'hier, les débuts de mi-temps, qui d'habitude sont réussis, là, ont été un peu laborieux. Les 20 premières minutes, on a l'impression que... Bon, c'est sans doute la fatigue, non ?
Ouais, c'est Milan. Enfin, moi, je pense que c'est Milan. Effectivement, le Stade ne nous a pas du tout habitués à démarrer de cette façon-là, c'est mi-temps. Donc, voilà, l'explication, même Julien Stéphane l'a sous-entendu en conférence de presse, oui, il y a la fatigue de Milan, où on a du mal à remettre la machine en route.
Alors, bon, le match s'est déroulé comme il s'est déroulé, on a eu un petit peu peur. Il y a un événement, on s'est demandé, est-ce qu'on y revient sur cette fameuse histoire du pénalty, qui est quand même un peu symptomatique d'une ambiance, est-ce qu'on n'y revient pas? Et on s'est dit, collégialement, en s'appelant ce matin vers 6h30, 7h, oui, on va en reparler un peu. Alors, et on va être très clair avec nos téléspectateurs, Christophe et moi qui commentions le match, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Ouais. Voilà.
C'est dommage qu'on regardait les matchs, quoi.
C'est dommage, ouais.
C'est qu'on regardait ce qu'on va vous montrer, là. On regardait l'image sur notre retour. C'est ça. La réalisation, le match était sur Prime. on met moult ralenti. On voit là, alors là, on voit trois joueurs. On se focalise sur Gastien, puis longtemps sur le gardien. Et à un moment, on revient sur cette image-là. Et on ne sait pas, nous. Alors on dit, ah bah il tire bien les pénaltys, Ludo Blas, savez, on n'est pas inquiet.
Mais vous savez s'il y avait pénalty ou pas. C'est ça là.
Oui, on sait qu'il y avait pénalty. Il y avait pénalty, mais on n'a pas vu, ni Christophe Penven, ni moi-même, ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi?
Parce que même les images, sifflé, je me suis dit, qui va tirer? Parce qu'en plus, Blas prend le ballon très vite, et puis je me dis, qui va tirer? Qui est désigné tireur numéro 1? On sait après que c'est Terrier. Mais moi, je me dis ça, et très vite, mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là, qu'il y aurait, que je pensais que Blas rendrait le ballon à Terrier, quand même, qui serait sage, bon petit camarade. Et ben il prend le ballon, ils discutent ensemble. Il y a même Goury qui vient dans la discussion. Vu que la faute est faite sur lui, il doit dire, oh, peut-être il tente sa chance, quoi. Mais finalement, il sort vite de la discussion, du conciliabule. Et Blas persiste, prend le ballon, et Terrier s'agace, s'énerve. Il y a même Théâtre qui vient lui dire, c'est pas grave, calme-toi. Et il l'envoie, il repousse Théâtre. Terrier, enfin, il était vraiment très agacé.
Il fait des signes à son banc.
Ouais, il fait des signes vers Stéphane.
Parce que donc ce qu'on a su par la suite, c'est que la hiérarchie définie, c'est Terrier qui devait tirer. C'est Terrier le tireur numéro 1 en l'absence de Bourigeaud. C'est lui qui aura dû charger de ce penalty. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Ludovic Blas se prend le ballon. A priori, il ne le lâche pas trop. Terrier y va. Gouiri, il va peut-être pour faire un petit peu l'intermédiaire et essayer de ramener Blas un petit peu à la raison en lui disant qu'il y a un tireur, il y a une hiérarchie. Au final, Blas garde le ballon et le tire. Et Terrier, effectivement, s'agace très fortement et ne le cache pas. Quoi. C'est-à-dire il se retourne vers son banc. Tout le monde dans le stade l'a vu.
C'est là où on peut débattre. Moi, je trouve. Suis désolé. Hein. Enfin, vas-y, fini.
Oui, non, mais voilà, pour expliquer les faits, voilà ce qui se passe. Et puis finalement, Terrier laisse les choses se dérouler. Blas tire, Blas la rate malheureusement. Et Blas se fait siffler.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Guillaume? Il est où le débat?
Moi, je trouve que si je veux me faire l'avocat du diable, moi, ça me dérange un peu. Alors, OK, il y a un tireur désigné. OK, ça doit être Terrier qui tire. Après, on sait tous dans quelle situation est Blas. C'est-à-dire en manque flagrant de confiance. Là, il veut tirer le pénalty. En général, il tire plutôt pas mal les pénaltys.
Nous, est-ce quand que on là, commente, on dit il met toujours des mines sous la barre, ça va être super.
Est-ce que sur le plan humain, est-ce que sur le plan de la gestion interne du groupe, est-ce que Terrier a besoin de faire des grands signes et des grands bras pour montrer qu'il est ultra agacé et que machin, voilà. Est-ce que là, il n'y a pas à prendre un peu de recul en se disant, voilà, OK, j'ai vécu quand même une situation bien difficile aussi, j'ai été un peu dans le dur. Je sais que mon coéquipier, que je n'apprécie pas forcément, mais peu importe, et dans le dur, allez, je le laisse tirer. Est-ce qu'il y a une nécessité absolument de montrer ostensiblement un agacement énormissime? Est-ce que c'est pas aussi contre-productif par rapport au groupe et par rapport à l'ensemble? Moi, je trouve que ça. On peut en débattre.
Ouais. Je suis d'accord, mais on a tellement dit que Terrier était un gentil. Non, mais c'est que quand il fait un peu preuve de caractère, on va quand même pas lui reprocher.
Oui, mais là, est-ce qu'il a besoin de faire des grands signes auprès du groupe pour montrer à tout le monde que voilà,
ça dépend ce qu'ils se sont dit.
Il avait voulu le tirer à Villarreal. Oui.
C'est un bon précédent qu'on peut rappeler effectivement. Quand Terrier revient à Villarreal sur le match, c'est pas lui a priori qui est censé tirer le penalty qui est raté à la fin à Villarreal. Sur le terrain, il y a Blas, Kalimuendo, Gouiri. Effectivement, il n'y avait pas eu de protestation à cette époque-là et c'était peut-être pas Terrier qui était le tireur numéro 1. À ce moment-là, les joueurs s'étaient bien entendus. Ce qui est marquant.
Et les conséquences de Villarreal, énormissimes quand même. Hein. Je rappelle. Parce que là, on débat de Milan. Ouais. Aujourd'hui, jamais on joue Milan s'il se passe ce qui se passe à Villarreal et au match retour.
Ce qui est révélateur, c'est que les joueurs ne s'entendent pas sur ce pénalty. Le Stade Rennais mène déjà 1-0. Voilà, c'est pas un pénalty extrêmement déterminant. Et ça crée un espèce d'épisode de petite polémique comme ça. Ce que je trouve assez marquant, pardon, c'est que très vite Terrier s'agace, quoi. Pourquoi est-ce qu'il s'agace autant? C'est-à-dire que
parce que il y a peut-être eu, alors on ne sait pas, mais ils se sont peut-être dit des choses pas sympas du tout au moment de prendre le ballon. Et là,
Un côté grand seigneur aurait été Blas à tort à la base. Je suis d'accord parce qu'il y a un tireur désigné et c'est Terrier. Il a tort. Mais à côté aussi, il faut que je pense que Terrier. Enfin, il faut non, il faut pas. Je donne mon avis. Il me semble que Terrier aussi doit être un peu grand seigneur dans le dossier, se mettre un peu à la place de Blas, qui est quand même sacrément dans le dur. L'équipe collectivement aura aussi besoin de Blas et de tout le monde.
Ça crée
une rupture.
On va écouter ce que dit Martin Terrier, parce que à la fin du match, tout le monde a voulu un petit peu faire retomber la sauce. De toute façon, Rennes a gagné 3-1, donc c'est pas comme si ça avait été un pénalty.
C'est pas retombé, je peux vous dire.
Bon, ok, on va écouter Terrier.
Et pour moi, c'était clair, j'étais désigné numéro 1. Après, voilà, Il peut y avoir des discussions aussi pour, par exemple, j'ai déjà laissé des pénaltys à Cali. C'est des discussions. Après, voilà, il y a une incompréhension. Il y a rien de mal. C'est déjà arrivé dans d'autres équipes. Mais il n'y a aucun problème.
La pilule est plus facile à digérer quand on en met deux derrière, non?
Ouais, en plus, c'est vrai que pour l'anecdote, la mi-temps, Baptiste, il vient me voir et il me dit, de toute façon, c'est pas grave, tu vas en mettre deux dans le jeu. Donc voilà, il a eu raison. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a, lui, comme, moi, comme Ludo, on a réussi à switcher à la mi-temps. Et il n'y a pas eu de problème particulier.
Bon, alors après, des sifflets, on en a parlé. Ouais. On peut les déplorer quand même.
Oui, bah clairement, les sifflets, c'est trop. Surtout les sifflets quand Blas touchait le ballon, c'est bon.
Systématiquement, ouais.
On tourne la page, au moins le match poursuit. Moi, je trouve que Blas, son erreur, c'est qu'il n'avait rien à gagner finalement. Parce que même s'il marquait le pénalty, il ne regagnait pas, peut-être une confiance perso, mais ça reste qu'un pénalty, mais il ne regagnait pas la confiance des supporters en un pénalty. Et là, il l'a perdu presque définitivement. Il faudra au moins deux triplés pour la regagner.
Ouais, je prends un très gros risque, mais il pouvait quand même regagner un petit peu de confiance.
Un but, ça compte, c'est toujours
on peut pas nier qu'un but, quoi qu'il arrive, c'est bon pour la confiance d'un joueur.
Il prenait un gros risque,
mais à la limite, il prenait un gros risque en tirant sur une virale aussi.
Oui, mais tout à fait.
Je pense qu'il part de trop loin. Blas, c'est pas avec un pénalty qui sauvait son image.
Il a fait
déjà une boulette dans la semaine en remontant un Instagram sur l'événement de Nantes l'année dernière où il avait marqué à Nantes. Il fait des maladresses de communication qui sont flagrantes et qui sont. Il fait tout pour se mettre les supporters à dos. Je suis désolé. Déjà, entre son comportement sur le terrain, sa communication et puis cette petite histoire-là, je suis désolé.
Comment vous voyez la suite ?
C'est la question. Le vrai intérêt, il est là. Là, finalement, c'est comment Stéphane, en tant que manager, va gérer cette situation.
Il a dit, on va régler ça.
On va gérer ça en interne.
En interne.
Bon, on sait bien que dans les vestiaires de football, évidemment, ils sont pas tous potes. En fait, tout va dépendre de la façon dont est perçu Blas à l'intérieur du vestiaire. Évidemment qu'il a des partisans et des gens avec lesquels il est plutôt proche. Je sais qu'il est très proche de certains joueurs. C'est une réalité. D'autres, évidemment, un peu plus compliqués. Avec Taré, par exemple, je pense que c'est pas l'amour fou. Voilà. En fait, tout va dépendre de la façon dont le vestiaire décide ou pas de passer l'éponge avec Blas. Et en fait, de ça va découler le management de Stéphane. Parce que le management de Stéphane va dépendre, en fait, de ses joueurs et de la façon dont eux veulent traiter Blas.
D'autant que, comme le banc est pas d'une profondeur extrême, on a bien vu passer hier le directeur sportif en zone mixte et faire passer un petit élément de langage comme quoi on aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin, on aura besoin de Blas. Vous auriez 30 joueurs, vous mettez Blas de côté.
C'est la vérité.
C'est pas gênant, sauf que vous n'en avez pas beaucoup, que Blas c'est quand même un joueur qui a du talent et que vous ne pouvez pas vous braquer Blas parce qu'il y a plein d'échéances.
Mais tout à fait. Ouais.
Après, la dynamique actuelle peut aussi aider à ce que tout le monde rentre dans le rang et oublie un petit peu vite sa fierté dans tout ça. Il y a une série à poursuivre. Il y a un match contre Milan qui est de prestige jeudi. Il y a le PSG dimanche.
Et on va y venir.
Voilà.
Et on va fermer cette parenthèse.
Ils ne sont pas tous potes, peut-être, dans un vestiaire. Ils ne sont pas tous potes, mais je pense que c'est quand même aussi des grands garçons assez intelligents. Et avec. Il n'y a pas de méchants dans ce vestiaire-là. Je pense que Bourige et Vandanda vont mettre le couvercle là-dessus. Et je pense que ça va se régler intelligemment.
On va regarder les notes des joueurs après ce Rennes Clermont Foot. Avec une moyenne de 6 hein, pour l'équipe, parce qu'il y a des notes qui sont très hautes. Regardez, Terrier, il tutoie 8. Omari, deuxième homme du match, est nettement au-dessus de 7. Alors finalement, oui, il y a Blas, parce que pour l'ensemble de son œuvre, même si... il fait des bons centres hein, avant cette histoire.
Il fait pas un match atroce.
J'ai regardé ses statistiques, il a pas des mauvaises stats. Hein. Il est contribué à 5 actions amenant un tir, c'est le meilleur stat de son équipe. Donc c'est-à-dire qu'il a été influent. Il touche très peu de ballons, ça c'est. Mais autrement, il est assez bon en XG. On n'aime pas les XG, mais il est deuxième derrière Terrier qui est loin devant, 1,6. Juste pour rappeler, les XG sur cette équipe, c'est le meilleur XG de la saison du Stade Rennais. Avant, c'était Metz,
ça veut dire les actions nettes
qui emmènent à un match. Donc le Sarri a été plutôt prolifique en attaque et Blas a fait partie de cela.
Il ouais, mais je pense qu'à la fois son attitude, le pénalty manqué et tout ça fait que la note a nettement baissé.
Scientiste, hein, notre ami Christophe.
Je suis pas du tout fan, mais là, voilà, j'ai remarqué ça. J'ai dit tiens,
je vais en parler.
Je vais dire tiens, place, il doit avoir des stats catastrophiques. Et puis je regarde, finalement, il est pas si mauvais que ça.
Terrier, homme du match, logique pour vous.
Oui.
Ouais. Deux buts, un carton rouge ouais. provoqué.
Ouais, on va revoir quelques images de Terrier, un match ouais. complet.
C'est une bonne réponse aussi parce que ça a été l'un des absents de jeudi. Quand voilà. même. Voilà, le match au Milan AC, le Stade Rennais avait besoin de ses cadres et de ses joueurs fiables. Terrier est un petit peu passé à côté de son match, il nous l'a affirmé aussi, hein, lui aussi en zone mixte après la rencontre.
Oui, c'est un garçon intelligent qui sait bien quand il passe à côté d'un match. Hein.
Ouais, là, il n'a pas trop aimé tous les commentaires quand même. Hein.
Ah non,
il n'a pas aimé les notes.
Il n'a pas trop aimé quand même.
Non, mais à ce qu'on peut comprendre.
Oui, après Terrier, c'est aussi le seul joueur presque avec Désiré Doué à l'avenir. Et sans doute Guiri, quand il est en forme, qui pourrait être au Milan AC. Alors donc, on attend de lui qu'il soit performant, qu'il hausse et hisse son niveau. Et en l'occurrence, il a été le plus mauvais sur le terrain. Bon, voilà, moi, c'est juste ça. Après,
ouais, c'est bien
c'est juste
dire.
Ça. Après, ouais. ça reste un joueur de grande classe, un mec intelligent, brillant, puis élégant. Enfin, moi, c'est pas en un match ça. Qu'on va plus aimer Martin Terrier.
Ah non.
Voilà, c'est tout.
Puis
mais
il revient.
C'est juste un match.
Il revient de.
Et c'est le joueur le plus décisif de Ligue 1. Alors, à égalité, pour être précis, avec Jonathan David. Avec le triplé. Voilà, 6 actions décisives en 5 matchs depuis en 2024, puisqu'il faut s'arrêter en 2024. Voilà. Ouais. Même ouais. Mbappé, votre ami Mbappé.
Vous avez employé
pas le nom.
Oh,
pas le nom.
Et en plus, comme dit Guillaume, en plus d'être efficace, parce qu'il est très efficace en ce moment, ça régale collectivement son jeu, sa technique en mouvement. Enfin bref, il fait progresser tout le collectif à lui tout seul.
Et son entente avec Guiri est intéressante.
Très intéressant.
Ouais. Ça veut dire qu'il y a embouteillage devant maintenant. Je ne sais pas qui a dit, mais quand Kalimuendo revient, qu'est-ce qu'on fait?
C'est deux profils différents. Je pense que Kalimuendo reste le choix numéro 1 en association avec Terrier. Moi, c'est mon avis. Mais Guiri incarne une belle alternative, parce qu'on a beaucoup vu Guiri sur le côté gauche. C'est plutôt encourageant aussi de le voir. Dans une autre position, plus dans l'axe. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Guiri. Il apporte vraiment quelque chose.
Le public aussi. On a parlé des sifflets, mais les applaudissements pour Guiri, qui n'a pas marqué lorsqu'il est sorti, c'était un chouette moment aussi. Ouais. Hein.
Parce qu'il a une sacrée cote de popularité.
L'adversaire était faible, mais c'est vrai que moi, j'étais quand même un peu agréablement surpris par la qualité de la relation technique et des déplacements coordonnés entre les deux. Moi, je pensais que c'était effectivement un peu plus, comme il avait dit au début, un peu les mêmes joueurs, voilà. Mmh. Et là, ils se sont vraiment très bien compris, très très vite, alors qu'ils n'ont pas très très souvent joué ensemble dans ce système-là. Alors, et c'est quand même une bonne nouvelle.
Ils ont une qualité de jeu en mouvement, à une touche de balle, voilà, c'est les deux joueurs les plus techniques de l'équipe, et ça se voit sur nos rencontres comme hier.
Ouais, plus intelligence football des deux cumulés, c'est normalement propre.
Alors, vous préférez un duo Guiri-Terrier ou un duo Kalimuendo-Terrier?
Ça dépend de l'adversaire. Ouais.
Guiri-Terrier, j'aimerais le revoir contre un adversaire plus fort.
Ouais. Ok. Christophe?
Oui, pareil. J'aimerais l'avoir contre un adversaire plus fort, donc on verra peut-être PSG.
Et l'autre joueur alors, parce que Terrier, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle régulièrement, mais l'autre joueur qui revient, enfin qui renaît, le phénix, c'est Omari, c'est une résurrection. Regardez, c'est lui qui donne la balle à Guiri.
On nous dira bientôt que c'était la recrue du mercato hivernal en défense centrale. Mais oui, c'est admirable. C'est admirable, franchement, faut lui tirer un coup de chapeau aussi, parce que il était vraiment au fond du trou, quoi. Il y a 2 mois et demi, il était au fond de la gamelle, comme vous lui avez dit en zone mix, ça l'a fait marrer. Mais non, il a le mérite d'en parler librement aussi, de dire qu'il s'est remis en question. Mais il était vraiment, enfin, mentalement, je peux vous dire qu'il était vraiment dans un état pas possible il y a 2 mois et demi, 3 mois, et arriver à se remettre comme ça dedans, franchement, chapeau.
Il faut quand même aussi souligner que pendant les mercato d'hiver, bon, il n'y a pas eu d'offre, voilà, mais clairement, la porte était ouverte.
Ah oui, bien sûr.
Grande porte.
Il a vraiment cherché un concurrent.
Parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je me rappelle début décembre dire Omari, il faut qu'il sorte de ce club. Et on a l'impression qu'il est pollué par son environnement, rester dans ce club. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il voit autre chose. Moi, je le disais. Mmh. Alors qu'il a un peu le symbole pour moi du redressement du Stade. Il y a Terrier, mais il y a lui aussi. Après. Et on le voit, la confiance, comme quoi ça, des fois, ça bascule en rien sur un ou deux matchs. Quand on voit les qualités de ses passes qui cassent les lignes, comme on l'a connu la première année quand il était avec Naïf Aguerre, ça me bluffe. Ça veut dire que là, il est revenu à un très, très haut niveau.
Bon, après, c'est pas non plus Beckenbauer. Hein. Bon,
il s'est quand même fait bouger un petit peu par les attaquants clermontois. Faut rester. Ce qui est admirable,
c'est le rebond.
C'est le rebond qui est admirable. Ouais. Après, on va voir. voir la qualité intrinsèque du joueur, ça reste quand même un défenseur de Ligue 1. Hein. Voilà,
allez, il est habillé pour l'hiver prochain.
Je parle pas forcément que du match de Clermont. Enchaîner autant de matchs, 5, 6, 7 matchs de haut vol, on va dire. C'était quand même peut-être le moins pire à Milan, encore une fois. Bah voilà, je trouve que.
Il est régulier, c'est ça qui est bien.
C'est ce qu'il dit lui-même. Ce qui lui plaît en ce moment, c'est sa régularité. Vous allez le montrer à l'écran.
Mais oui, on va l'écouter parce qu'on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que. Du fond de la gamelle, tu arrives jusqu'en haut. Souvenons-nous de son match. Souvenons-nous de son match à Lorient. Hein. Alors, il nous a répondu.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui est un peu étonné. Mais comme le coach le dit, il faut se remettre en question. Quand ça ne va pas, c'est qu'il y a des choses qui sont autour qui ne vont pas bien. Il faut les revoir et il faut mettre des choses en place. C'est ce que j'ai fait de mon côté. Et pour l'instant, ça va bien. Donc, j'en profite et je vais rester humble comme je le suis. Et ça marchera encore.
Qu'est-ce qui a changé?
Ça, ça reste entre moi et moi-même.
D'accord.
Je me surprends, oui, sur la régularité, mais après, au niveau des performances, c'est des performances que j'avais déjà faites au passé, mais c'est surtout sur la régularité où je me sens bien et je sens qu'à chaque match, je propose ce que je peux faire de mieux, en tout cas.
C'est marrant, il se surprend lui-même dans la régularité. Là, il a l'air ravi et épanoui.
Il est plus concentré, quoi. On sent effectivement qu'il se force. Ouais. Il force un peu sa nature, un petit peu parfois, voilà, à être vraiment à bloc. Il a dû travailler mentalement encore plus, sûrement, j'imagine, avec le staff aussi, avec ses conseillers, avec peut-être son psy, parce que je crois qu'il est suivi aussi par un spécialiste de la préparation mentale. Voilà, tout ça, c'est important. Ouais, ça montre que c'est un jeune joueur qui veut progresser.
Petit stade quand même, 89% de duels gagnés, numéro 1 évidemment de son équipe, 8 sur 9 duels gagnés, c'est largement le numéro 1 de son équipe. 5 ballons perdus, c'est très très peu, en sachant que c'est quand même un défenseur qui prend des risques et donc il n'a pas perdu beaucoup de ballons.
Alors, troisième joueur, parce qu'on va parler de Milan, il faut vite qu'on le fasse. Juste comme ça, on va voir les images de Seydou, sa première titularisation, pas facile en plus contre son ancien club. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous plaît pas?
Ouais, c'est bien, dynamique, quoi. C'est bien, c'est efficace. C'est efficace, c'est-à-dire que c'est souvent les bons choix, c'est souvent le moins de risques possible. C'est un petit peu différent de son concurrent actuel. Mais c'est deux registres différents avec Guéladoué, mais non, c'est doux, c'est quand même, c'est quand même fort. Moi,
On l'a vu râler sur lui-même parce qu'il a raté quelques passes. Oui. Donc, il doit être assez exigeant, c'est bien d'avoir un joueur exigeant sur lui-même.
Il défend.
Et par contre, il envoie du peps, il envoie de l'énergie, du dynamisme.
Ah oui, alors il prend un carton bête qui le privera du déplacement au Puy, enfin à Saint-Etienne. Ouais. En Coupe de France, voilà.
Ouais. Est-ce que vous aimez son short à la Palois, la façon dont il met son short à la Palois?
Ah ouais. Je suis pas fanat de remonter les Palois. Shorts comme ça.
Je pense qu'il fait ça parce qu'il a des cuisses tellement énormes
que ça rentre pas dans les shorts.
Je sais pas, mais en tout cas.
Il prend une taille au-dessus.
Hein. Oui. Ou alors il veut vraiment montrer qu'il a de très belles cuisses. Il a des cuisses énormes.
Juste un mot sur Seydou, c'est pas un latéral droit de formation quand même. Faut pas oublier que c'est un joueur qui a aussi besoin de prendre des repères à ce poste-là dans un système en 4-4-2 où ça fonctionne par doublette. Donc vous devez aussi trouver la relation avec le milieu excentré. Droit. Voilà, il y a un besoin aussi d'un peu de temps pour qu'il soit vraiment très efficace, mais ce qu'il a déjà montré est plutôt prometteur.
Ouais, donc on va le revoir et peut-être même jeudi. Ouais. Peut-être même jeudi, parce que jeudi, c'est le Milan qui revient ici. Ça va être l'occasion donc que nous.
Qui vient.
Qui vient, oui.
Ils ne sont jamais venus.
Non, ils ne sont jamais venus, c'est vrai, ils ne reviennent pas, ils viennent. 18h45, le match avec des. Ils viennent à moins nombreux que nous, on est allés là-bas.
Oui.
Hein, il y a quoi, combien de supporters?
1200,
et tous ces supporters auront droit à une galette saucisse. Voilà, c'est parce que c'est comme ça qu'on sait recevoir.
C'est vous qui offrez?
C'est pas moi qui offre, en l'occurrence. Je pense que le Stade Rennais s'est mis d'accord avec un restaurant rennais qu'on connaît bien, qu'on va citer, qui s'appelle Léon le Cochon.
Qui va offrir
des galettes saucisses à chacun des. Voilà, et pas des mini galettes saucisses, hein, des trucs.
On va faire de la pub pour West France qui va faire une page.
Qu'est-ce que vous offrez?
Non, on offre une page en italien pour ces supporters qui veulent faire du tourisme. Alors, pas sûr qu'ils veulent faire du tourisme, parce que ça va surtout être...
Et pas en latin, comme vous faites dans vos papiers.
Oui, en italien. Lorem ipsum. Et ça sera donc jeudi, il y aura une demi-page en italien, parce qu'il y aura une page de conseils que faire à Rennes.
C'est très sympa.
À part boire des bolets.
C'est pas payé par Milan, en plus. Hein.
C'est offert par West France.
On est quand même vachement sympa.
Ouais, c'est pas payé par le Milan.
Alors, on va... Parce que c'était agréable comme déplacement. On va revoir des images que vous avez faites, Christophe. C'était assez incroyable. On va parler du sport après, mais ce déplacement de 10 000 Rennais qui s'est déroulé dans des conditions parfaites.
Oui.
Pas de bagarre, pas de...
Entre eux, il faut le dire, parfaite entre eux, un peu plus compliqué pour l'accès au stade, entre des supporters entassés avant San Siro, des fouillages de la sécurité très très limite pour certains.
Oui.
On a eu des retours, donc oui, ça c'était un peu moyen. Après les policiers n'ont pas tapé sur les supporters comme ils ont fait en Espagne où la moindre petite écart ont tapé dessus.
Il n'y a pas eu de duel entre ultras.
L'ambiance entre supporters était excellente, effectivement.
Oui, alors on a eu un beau cortège. C'était le record, hein, évidemment, de déplacement. Et c'est vrai que l'organisation pour aller rechercher les billets et tout ça, tout était plutôt impeccable. On ne peut que se féliciter de ce que l'on a vu, en tout cas, de l'image que la communauté rennaise a donnée à l'extérieur, parce que c'était impeccable.
Ah oui, un grand moment, un très grand moment, ouais, effectivement.
Salué aussi par les gens, les adversaires, les supporters adverses, voilà, ils ont été impressionnés même par ce déplacement de supporters rennais. Bravo à eux.
Voilà, donc ça c'était bien. Quel dommage que l'équipe n'ait pas vraiment rendu sur le terrain, comme vous le signaliez, Laurent, cet amour et cette ferveur. On a l'impression quand même que les Rennais, ils n'ont pas beaucoup contesté le résultat à Milan, avec le recul, avec 3-4 jours de recul.
C'est trop un peu timide et puis limité de toute façon pour contester un adversaire aussi fort, beaucoup plus talentueux, beaucoup plus physique. Effectivement, le problème qu'on avait noté depuis le début de saison, quand même, c'est l'impact global de cette équipe-là. On a eu des débats ici, hein, plusieurs fois, à l'échelle de la Ligue 1, pour dire que déjà, ça posait problème. Alors, vous imaginez bien qu'en Coupe d'Europe, où l'intensité physique, athlétique, la puissance des joueurs, la vélocité, c'est capital en Ligue des Champions comme en Ligue Europa. Donc forcément là, ça se voit à 10 000.
Est-ce qu'on espérait un peu, c'est de voir Milan, voir arriver cette équipe de Rennes qui ne connaissent pas trop, les prendre un peu de haut. Là, ils ont joué le match avec leur titulaire. Vous avez vu, ils ont été battus à Monza hier en changeant la moitié de l'équipe comme Rennes a fait. Voilà, ils ont pris très au sérieux. On sent que c'est un vrai objectif pour le Milan AC de gagner cette Coupe d'Europe. Donc ils ont pris le match très très au sérieux.
On va revoir les buts de Milan, trois accélérations, trois buts. Quoi.
Ouais, regardez ça. C'est ça qui est peut-être le plus embêtant, c'est qu'on a vu une équipe largement au-dessus de l'autre, mais une équipe du Stade Rennais qui a peut-être pas été, qui s'est pas surpassée. C'est-à-dire qui a fait un match qui est loin d'être son meilleur match, où plusieurs cadres comme Terrier, Théâtre, même au milieu, hein, Santa Maria, Matuziwa, c'était pas top. Voilà, ils font pas un très grand match, et il aurait fallu un très grand match sur ce match-là, parce que on a vu une équipe en maîtrise. Cette action-là, c'est allé tellement vite. Mais on a vu vraiment une équipe en maîtrise. Le Milan AC n'a quasiment jamais été inquiété.
Cette action est remarquable. Vous voyez que Guéladoué est pris de vitesse.
Ouais, mais là, c'est trop vite, c'est trop fort sur le plan technique.
Il est pris dans l'impact aussi.
Le dégagement de Mandanda est pas bon.
Oui.
Il s'attend pas non plus à ce que.
Oui, mais il attend le ballon. Il va pas vers le ballon et il y a quelqu'un qui coupe. Enfin,
c'est athlétique comme on l'a dit, mais techniquement même, à la récupération, en 3 touches de balle, ils ont mis tout le monde à 5 mètres. Donc,
une fois que vous avez dit ça, c'est plié. On en est qu'à la mi-temps, comme disait Genesio. Il reste un match retour. Alors peut-être pas.
Moi j'y crois pas, mais je mettrai 3-0 dans mon prono pour être. Mais j'y crois pas, mais voilà, il faut en tout cas que ce soit une belle fête de football. Enfin, je veux dire.
Il faut respecter le public aussi. Voilà, ça va être à guichet fermé.
Il faut les victoires de prestige déjà.
Et je pense que les joueurs aiment ça. Les joueurs veulent ça. Ils veulent sur leur CV ou raconter un jour qu'ils ont battu le Milan AC.
Le problème c'est que ça va être compliqué de ne pas encaisser de but. Et qu'à partir du moment où vous encaissez de but, où vous encaissez au moins un but, il va falloir en mettre 4. Donc je veux bien que Milan, ce soit pas...
Un carton rouge, deux cartons rouges.
Voilà, ça paraît quand même vraiment, vraiment, évidemment, non, comme
paraît,
l'a dit...
Ça paraît compromis, comme l'a dit...
J'ai senti qu'il disait plus tout à fait la même chose, Julien Stéphan.
C'est plus facile aussi d'avoir un petit peu plus confiance quand vous venez de mettre 3 à Clermont, effectivement, et que vous êtes rassuré avec une équipe qui avait tourné. Mais voilà, on l'a dit en début d'émission, cette équipe, elle a tourné contre Clermont. Ça veut dire qu'elle va quand même attaquer le match jeudi avec une équipe qui ressemblera à l'équipe type.
Et ça sera la même chose à Milan. Moi, je pensais que Milan serait revenu plus décontracté.
Non, Christophe l'a bien dit, c'est un objectif pour eux, Milan. Ils vont venir avec, a priori, une vraie équipe. Les 45 minutes, les 45 premières minutes, elles seront déterminantes en fait. Parce que vous pouvez faire douter une équipe si vous rentrez avec un avantage au score de plus 1, voire 2 buts. Mais bon, faut pas trop rêver. Mais déjà, plus 1 but, ça peut.
Plus 1 à la mi-temps.
Ouais, plus 1 à la mi-temps, déjà, vous pouvez peut-être un peu y croire. Déjà, mais avec un Milan qui a 3 buts d'avance, ça, c'est quasiment la mission impossible. Enfin, pour moi, En plus, la victoire était peut-être la victoire, mais la qualification, j'ai du mal à y croire.
Une équipe qui veut gagner la Ligue Europa, une équipe qui a ce prestige-là, va prendre le match sérieusement. Ils ne veulent pas non plus être la risée de l'Europe, comme un club d'une certaine capitale l'a été avec une remontada. Et là, c'est dans les gènes, dans l'ADN de ce club, de ne pas le faire. Il n'y aura peut-être pas Léao, parce qu'il boitillait en sortant de la zone mixte. Et là, il a été ménagé, on sait pas, on verra. Mais ils ont même pas besoin de lui, en fait.
Pour parler de l'ADN du Milan AC, ça leur est quand même déjà arrivé. C'était il y a 20 ans, mais c'était contre le Deportivo La Corogne. Ils avaient gagné 4-1 à domicile et ils étaient allés perdre 4-0 en Espagne.
Oui, voilà. Non, mais dans une Coupe d'Europe.
En Ligue des Champions. En Ligue des Champions aussi, plus récemment.
Ça peut arriver.
Fort à cette époque-là, non ?
Je vois mal Milan prendre 4 buts le dimanche et en reprendre 4 le jeudi. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, quand même.
Il y avait deux choses sur Monza. À Monza, ils ont joué avec une équipe B. Et puis, regardez le profil d'équipe. Encore une fois, j'en reviens à ce qu'on dit tout à l'heure, au-delà des qualités techniques, évidemment. Monza est une équipe qui met beaucoup d'impact athlétique.
C'est une bonne équipe,
Monza. Et c'est une équipe qui...
Ils sont 11e, Monza.
Et encore une fois, Milan ne joue plus rien en Serie A, donc ils ont...
Tout le monde s'intéresse à Monza.
Ils ont pris un peu
de façon bizarre.
C'est une équipe qui a appartenu à Berlusconi après qu'il soit parti du Milan AC. C'est lui qui l'a fait remonter en Serie A.
Ils ont joué le match un peu à demi.
Je me suis très intéressé à Monsieur Berlusconi.
Oui, Christophe.
Ouais, comment ?
C'est pas une Formule 1, Monza, mais c'est une belle équipe.
Bien ! Que de références, Cela dit, pour le public, on l'a dit, ça va être à guichet fermé, ça va être compliqué d'aller au stade, donc prenez vos précautions, je le redis.
Partez mercredi soir pour avoir
un parking. Ça va être compliqué, mais qu'est-ce qu'on peut penser que Seydou va démarrer? Moi, je veux savoir comment il va jouer.
Nous aussi, on veut savoir.
Oui, mais vous le savez mieux. Vous êtes tout le temps en contact avec Julien.
La même équipe qu'elle allait. La même équipe qu'elle allait avec Seydou à la place de Guéladoué. Ouais.
Je suis d'accord.
Ça ressemble à ça.
Oui. Je pense que ce
serait... Imaginez que ça se passe bien. L'exploit que ce serait.
Ah bah, ce serait retentissant.
Non, mais voilà.
Ce serait incroyable.
Ou est-ce que on peut déjà...
Qu'est-ce que vous faites à l'émission de vendredi, si ça se passe?
Ah bah, je sais pas.
C'est ça que les supporters veulent savoir. Voilà, le rendez-vous est
pris. On met une perruque, si ça se passe bien.
Non, bah non. Une perruque, ça va, ouais.
Une perruque, ça va.
Vous mangez pas un rat, quoi.
Non, je peux faire ça. Bon, on va passer aux pronos. Parce que quand même, il faut parler de ce match-là. Les pronostics. On regarde déjà le classement parce qu'il y avait un certain nombre de confrères qui avaient le bon score. Qui avaient le bon score et donc qui marquent 4 points. Alors on voit le tiercé de tête, David Thomas du Télégramme, Thomas Rassouli présent sur notre plateau de SRO et Laurent Frétinier présent également sur notre plateau de West France. Mélanie Duro est la première consoeur, mais Catel Lagré avait aussi le bon score. Bon, pour vous, Christophe Penven. C'est pas votre saison.
C'est le fond de la gamelle.
Il va falloir faire une Omarie et ressusciter un moment ou un autre.
Il reviendra tel le phénix.
Comment voyez-vous le match? Donc vous nous l'avez dit, vous dites 3-0.
3-1, mais je pense qu'ils vont prendre un but, donc 4-1.
4-1, qualification de Rennes.
Non, prolongation. Prolongation.
Ah oui, il faut donner aussi ce qui va se passer au péno.
Ils vont passer au péno.
Ok.
Alors on peut gagner au...
Ah oui, évidence.
Avec un péno de Blas.
Bien sûr.
Le meilleur tireur de pénalty est blessé, c'est Naguida.
Il faut remettre
à César.
Thomas.
Victoire de Rennes 2-1.
Une victoire de Rennes 2 buts à 1. Laurent.
Une victoire de Milan 2-1.
1-2.
Avec un but de Giroud. Qui a pas marqué, qui a été gentil avec Mandanda à l'aller.
Oui, mais qui était fâché contre ses coéquipiers hier, qui n'a pas arrêté de pester pendant tout le match. Très très fâché. Donc attention. Quand...
C'était les remplaçants. Puis Jovic a pris un rouge. Bon.
Ouais. Mais quand il est fâché. Bon, Guillaume.
2-1 pour Rennes.
Vous n'avez pas l'air convaincu.
Non.
Du tout. Non, mais alors là, ça va être plaisir.
Une joie de couvrir.
Ah, et moi, je dis 2. Je dis 2-1 pour Milan. Et j'ai peur du scénario où Rennes ouvre le score. Ouais. Où on part un peu à l'abordage et où
le
réalisme italien.
N'oubliez pas d'acheter votre perruque jeudi, au cas où.
Ah bah oui, mais on doit trouver ça rapidement, au cas où ça se passerait bien, parce qu'on sera là vendredi pour un Pleine Lucarne spécial Europe et avant le PSG.
Et le match le plus important de la semaine, Vincent.
Le match le plus important de la semaine. Ah oui, on a 45 secondes. Le match le plus important de la semaine, dans le public, c'était assez... assez partagé, mais les gens disaient Paris.
Paris, oui.
Paris, c'est le plus important.
Milan, les émotions.
Milan.
Non, Paris.
Paris, Paris, Milan.
Bah, Milan, les émotions, je suis d'accord, parce que comme ils vont prendre aussi une brune rousse à Paris, donc...
c'est vachement sympa de finir des émissions comme ça.
Oui, mais parce que le joueur dont vous n'avez pas voulu citer le nom va...
sera son premier match à Paris depuis qu'il a annoncé qu'il s'en irait.
Et justement, il va vouloir faire plaisir à son...
On parlera donc pas de Rennes du tout dans toute la presse, sauf ici, lundi prochain.
Et dans West France, on parlera quand même bien sûr.
Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour un 25 minutes spécial Europe. D'ici là, portez-vous bien et allez Rennes.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, habitant, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.